les solitudes de l'amour. Pour illustrer notre propos, la ségrégation des sexes, voici en préambule une ségrégation repérée par la lettre. En effet, connaissez-vous la différence entre les hommes et les femmes ? Les hommes ont des cerveaux et les femmes ont des cervelles. Je vous y attendais pas. Il s'agit d'une réplique du film « La guerre des moutons », que j'avais tous vu. Ça ne m'avait jamais sauté aux yeux, enfin, j'ai réentendu récemment. Réalisé par Yves Robert en 1962, où un petit sujet qui revendique son entrée dans la bande qu'il s'est choisie répond à une question sur la différence des sexes lors de son examen d'admission. Bien sûr, dans sa réponse, ce jeune enfant, par ignorance ou par pudeur, ou bien encore par amnésie de la différence sexuelle, compte tenu de son âge, cherche une autre réponse que celle qui l'amènerait à nommer la dimension imaginaire de l'avoir ou pas du pénis. Notons que sa réponse, jugée acceptable, lui donne un accès direct au groupe qui lui confère l'assurance de sa virilité, d'une identité sexuée acquise par ce parcours initiatique. Cela implique sa confrontation de multiples aventures qui se soldent par le rêve bien connu « Si j'avais su, j'aurais pas venu ». Je rappelle au passage que l'insulte qui déclenche les hostilités entre les deux bandes rivales n'est autre que celle de couilles molles. L'insulte ne touche au réel qu'à perdre toute signification, dit Lacan. Le phallus est donc au centre du discours de ségrégation, donnant à chaque sujet matière à être par le dire, passant du réel de l'organisme au signifiant phallique. Prima du phallus, nous dit Freud, signifiant sans père, dit Lacan. L'homme, une femme, ce ne sont que des signifiants. C'est de là, du dire en tant qu'incarnation distincte du sexe, qu'ils prennent leur fonction. La binarité sexuelle est établie dans le discours issu du pater familias qui se réfère à la norme phallique, ordonnant la marche à suivre pour chacun des sexes dans son lien social. Je rappelle que ce film est issu du roman éponyme de Viterbo, écrit en 1913, et donc contemporain de la découverte freudienne. Il faudra attendre 1923 pour que Freud écrive noir sur blanc, pour les deux sexes, l'organe mâle joue un rôle. Il n'existe donc pas un prima génital, mais un prima du phallus. Dans le film, on voit que si l'insulte suprême déclenche les hostilités, en revanche, c'est l'identification à un S1 qui mène la bande au combat. L'honneur, c'est important, dit l'un des chefs. Notamment quand ils suggèrent d'aller au combat dans leur plus grande nullité, provoquant la débandade du camp adverse. Si la jouissance phallique consiste à s'approprier les biens de l'autre, ici représenté par l'objet méconnu des boutons, prélevé sur les vêtements des protagonistes, elle inflige le déshonneur de perdre le pantalon et de surcroît assure chaque combattant de recevoir une raclée des parents. L'honneur est un signifiant maître, certes désuet au regard du discours capitaliste, mais qui a toujours convoqué le ralliement des masses. Le S1 du discours guerrier, tel qu'il soit, justifiant les exactions sur ceux qui refusent le combat, ou bien ceux ou celles qui refusent de partager la haine. En 1945, on rasait des femmes sur la place publique. Aujourd'hui encore, le viol des femmes de l'ennemi reste l'arme la plus usitée lorsqu'un groupe armé décide d'envahir son voisin. On mesure ici comment du phallus on passe au signifiant maître, comment l'abus du pouvoir glisse à l'abus du sexe, comment le champ social avec ses insignifiants abrase le champ clos de l'intime, comment le sujet y est réduit à un objet lorsque le discours ségrégatif déchaîne les pulsions. On peut lire dans Malaise et la civilisation, l'homme est tenté de satisfaire son besoin d'agression aux dépens de son prochain, d'exploiter son travail sans dédommagement, de l'utiliser sexuellement sans son consentement, de s'approprier ses biens, de l'humilier, de lui infliger des souffrances, de le martyriser et de le tuer. Plus loin, Freud ajoute, Par suite de cette hostilité primaire qui dresse les hommes les uns contre les autres, la société civile est constamment menacée de ruine. Donc ça ne change pas la scène. Actuellement, les femmes s'élèvent contre les abus et harcèlements sexuels, exigeant légitimement le respect de leur corps et de leur vie, intégrant ces nouvelles normes dans le discours. L'honneur se féminiserait-il? Toutefois, si l'égalité des droits est justifiée, si on peut légiférer sur le changement de sexe des sujets, il n'en reste pas moins que c'est bien le manque phallique qui rend une femme objet du désir sexuel de l'homme, précisément du fait de sa différence. Le discours analytique semble bien être le seul actuellement à maintenir comme universelle cette différence entre les sexes. Avec la psychanalyse, Freud a introduit la castration dans la formation du désir à partir de son complexe d'Œdipe. Avec son tableau de la sexuation, Lacan écrit ce qu'il en est du lien homme-femme au-delà de l'Œdipe. Pour la première fois dans Encore, il nomme la jouissance féminine comme une jouissance supplémentaire qui surgit appendue à la jouissance phallique. Si on a en mémoire le tableau de la sexuation, on a qu'à droite, côté femme, il y a deux flèches qui distinguent par leur orientation deux jouissances, une phallique qui se dirige de l'autre côté du tableau, du côté de l'homme, et l'autre, pas toute phallique, qui reste exclusivement à part. À gauche, côté homme, il n'y a qu'une seule flèche qui se dirige vers le clitoris, c'est une jouissance toute phallique qui passe par le signifiant. En 1958, dans la signification du phallus, il indiquait « Le phallus est le signifiant privilégié de cette marque où la part du logos se conjoint à l'avènement du désir. Un homme cherche un objet complémentaire qui pourrait répondre de sa castration en se forgeant un fantasme autour de cet objet selon les signifiants qui habitent son inconscient. Si la jouissance phallique fonctionne en symétrie de part et d'autre, elle a un signifiant pour décrire une fille, alors que le signifiant de la femme n'est associé à aucun signifiant de jouissance. D'où ce qualificatif de supplémentaire qu'il apporte dans le corps. Alors, comment définir cette jouissance qui ne peut se nommer? Dans Ou pire, à la leçon du 8 mars 72, Lacan propose une définition qu'il emprunte à un poète. Cette jouissance féminine, autre, elle est pure existence entre centre et absence. Et il explique. Que devient quoi pour elle? Cette seconde barre que je n'ai pu écrire qu'à la définir comme pas toute. Celle qui n'est pas contenue dans la fonction phallique, sans pour autant être sa négation. Son mode de présence, nous dit-il, est entre centre et absence. Entre la fonction phallique dont elle participe, singulièrement, de ce que l'au moins un, qui est son partenaire dans l'amour, y renonce pour elle. Ce qui lui permet à elle de laisser ce par quoi elle n'en participe pas, dans l'absence, qui n'est pas moins jouissance, d'être jouisse-absence. Ainsi, dans le tableau de la sexuation, la jouissance féminine se partage entre ces deux flèches, dont l'une vers ce centre excentré, en fille, et l'autre vers le signifiant de l'autre, barré, c'est-à-dire ce lieu de cette jouisse-absence. Pour éclairer mon propos, j'évoquerai rapidement quelques figures féminines qui se distinguent par la radicalité de leur acte qui relève du partout, échappant à toute logique signifiante, mais n'en constitue pas moins cette jouisse-absence dont parle joliment Lacan. La jouisse-absence est une jouissance sans objet, contrairement à la jouissance phallique. Je vais donc suivre le fil de la poésie des textes en vous présentant une idée sur laquelle j'ai déjà travaillé. La référence à Médée est fréquente, mais peu au texte. Lacan s'y réfère dans son texte La jeunesse de Gilles, qui date de 1958, donc bien avant encore, et à propos des lettres brûlées de Madeleine. Il écrit « Pourquoi ne pas voir que celle qui fut sans doute tout absorbée dans le mystère du destin qui limite à André Gilles, se dérobe aussi sûrement à toute approche mondaine? Qu'elle est soustraite, avec quelle fermeté de glace, à un messager assez sûr de portée du ciel pour s'immiscer en son accord. Le messager n'est autre que Paul Claudel, l'auteur que partage le midi avec Isée, dont on peut également souligner la radicalité. Lacan évoque l'aspect impénétrable de son acte pour se séparer de Gide, et il écrit « Le seul acte où elle montre clairement s'en séparer est celui d'une femme, d'une vraie femme dans son entièreté de femme. Si cette vraie femme ne réapparaîtra jamais dans son ancien nom, en revanche, il la réintègre dans la logique du pathophanique sous l'écriture du lettre de Quentin Barré. Médée, écrit en 431 avant Jésus-Christ, apparaît comme la pièce majeure de l'épide, qui aurait été boudée par le public et incomprise de ses contemporains. Comme tous les dramaturges grecs, il puise son inspiration dans les mythes, mais son originalité l'amène à les modifier. Par exemple, il change le statut social des protagonistes, ses rois sont vêtus de galons, il humanise les héros mythiques et, pour la première fois dans la légende, fait d'une mère, Médée, la meurtrière de ses enfants. Il ose ainsi attaquer l'image matérielle. Le mythe a une fonction toute particulière, où l'inconscient traverse les époques et la civilisation. Il a quelque chose d'atemporel de Lacan, qui démontre certaines constances qui ne sont absolument pas soumises à l'invention subjective. Il y a deux aspects chez Médée, comme chez Madeleine d'ailleurs. On relève la vengeance d'avoir été trahi dans leur amour par leur partenaire. Freud nous a enseigné que la perte d'amour était l'équivalent de la castration pour une femme, puisqu'elle reçoit le phallus qu'elle n'a pas de son partenaire. Donc, leurs réponses à l'une comme à l'autre sont des réponses à la castration éprouvée dans leur lien d'amour. Ce qu'il faut y voir, c'est d'une part l'extrême violence de leur réponse, et d'autre part, le sacrifice de leur objet le plus précieux, leur avoir, gage cette relation à leur partenaire. Ces deux éléments conjugués relèvent de l'acte radical de la patoute. Je vais pour terminer vous lire quelques passages de Répit qui viennent confirmer ce sacrifice de ces objets d'amour, car il est indéniable qu'elle aimait ses enfants. Alors au cinquième épisode, elle dit « Privée de vous, je mènerai une vie faite de deuil et de souffrance. Et vous, jamais plus de vos yeux chéris, vous ne verrez votre mère. Vous serez parti pour une autre forme de vie. Hélas, hélas, pourquoi tournez vos yeux vers moi, mes enfants? Pourquoi le sourire de votre dernier sourire? Ah, que faire? Mon cœur défaille, femme, quand je vois cette lueur dans le regard de mes fils. Non, je n'y pourrai jamais. J'emmènerai mes enfants loin de ce pays. À quoi bon pour affliger leur père, au prix de leur malheur, redoubler mes propres malheurs? Non, non, adieu mes projets. Vous voyez bien qu'elle hésite. Au troisième épisode, elle déclare « Je pleure sur l'action qui me reste à accomplir. Les enfants. Je vais tuer mes enfants. Nul ne pourra les arracher à la mort. Et quand j'aurai bouleversé toute la maison de Jason, je quitterai cette terre, m'exilant pour le meurtre de mes fils chéris, après avoir osé le plus impie des crimes. » On peut évidemment s'arrêter sur la vengeance d'une femme trahie, mais l'idée va bien au-delà. Gide comparait ses lettres à son enfant. Madeleine ne s'y est pas trompée en les brûlant. Lacan, en commentant Gide, écrit « On ne songe guère, en lisant ces lignes, à s'interroger sur les limites du bon goût. Elles sont tout simplement atroces par la conjonction d'un deuil qui insiste à renouveler ses vues. Je l'ai aimé et je l'aime à jamais, et de la misère d'un regard décidé sur ce que fut le sort de l'autre, et à qui ne reste plus pour s'y retenir que le ravage d'une inhumaine privation surgit de la mémoire avec le spectre foncé de son plus tendre besoin. » Puis quelques lignes plus loin, il précise « Rien du désir qui est manque ne peut être pesé ni posé dans les plateaux, si ce n'est ceux de la logique. » On peut en déduire que s'il n'avait pas encore établi le tableau de la situation, la logique de l'au-delà de l'Oedipe était déjà au travail. Et cette logique renvoie la solitude de cette jouissance qui se spécifient du sacrifice des objets, relevant du une par une pour chaque femme, même si leur acte répond de la logique du patou. La jouissance du tout phallique inscrit des variétés de jouissance qui prennent leur ancrage dans l'inconscient des par-lettres, du un diversifiant, alors que la jouissance autre, relevant de la patou, vise le un d'exclusion, qui la fait autre radicalement. On peut attendre plus de ségrégation de ces uns diversifiés qui répondent aux commandes des essaims de circonstances, suscitant massivement un discours haineux et raciste, ne serait-ce que de manière éphémère, comme en témoigne l'actualité, et qui dans l'histoire s'est déjà avéré ravageant. Merci.